une foi fermement positionnée. Nous avons vu déjà deux exemples dans les deux premiers cultes de ce mois de juillet. Nous avons déjà vu parler de Moïse et de sa foi, de quelle manière il a positionné sa foi face à Pharaon et face à d'autres décisions importantes de sa vie. Nous avons également parlé de David et de ce positionnement extrêmement fort qu'il a dû entreprendre et qu'il a dû maintenir pour combattre ce géant Goliath. Et ce matin, nous voulons parler de quelqu'un complètement différent. Et je voudrais ce matin vous entraîner dans l'expérience de quelqu'un qui avait tant reçu et qui pourtant a négligé beaucoup de choses, a fait beaucoup d'erreurs graves. Nous allons parler de quelqu'un qui a vécu il y a très longtemps, il y a plus de, on peut dire, 2600 ans peut-être, plus même, 3000 et quelques. Et nous allons apprendre de cette personne qui a vécu dans un contexte complètement différent du nôtre, et pourtant les principes spirituels sont aujourd'hui les mêmes. Nous lisons dans Hébreux chapitre 11, verset 32 et suivant. Que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Ce texte dans la lettre aux Hébreux nous parle d'une série de personnes que nous sommes en fait étonnés de voir apparaître dans la galerie des héros de la foi. Si on parle d'Abraham, c'est évident que c'est un héros de la foi, de David, de Moïse, etc. Mais de trouver ces personnes, dont la personne dont je vais vous parler, qui se retrouve sur quatre chapitres de l'Ancien Testament, mais dans seulement un verset du Nouveau Testament, dont celui-ci. Et il est étonnant de voir que la Bible dans le Nouveau Testament souligne sa foi. Parce que quand je lis son histoire dans l'Ancien Testament, ce n'apparaît manifestement pas qu'il avait avant tout la foi. Or, le Nouveau Testament nous dit qu'il avait reçu aussi la foi et qu'il a marché à certains moments par la foi. Mais que sa vie, son style de vie, son caractère, ses options, ses choix ont été à plusieurs moments tellement mauvais que cela a gâché son ministère, que cela a mis à mal son appel profond. Et pourtant, il y avait la foi. Au début, mais aussi dans certains épisodes de sa vie, il y avait la foi. Et nous allons voir que cette personne qui avait fait tant de choses mauvaises va finalement être au bénéfice de la grâce de Dieu. Et je crois que ce matin, quelle que soit votre vie, il y a toujours une portion de foi en vous. Il y a une portion de foi qui est là. Et il y a une portion puissante et suffisante de la grâce de Dieu. Car là où le péché abonde, la grâce surabonde. Saisissez ce matin l'amour de Dieu et la grâce de Dieu afin que vous puissiez avoir et garder une foi bien positionnée. Bien positionnée. Israël est au temps des juges. Et nous allons lire tout à l'heure quelques extraits. Il est difficile de tout lire puisque l'histoire de ce personnage qui s'appelle Samson s'étend sur quatre chapitres 13, 14, 15 et 16 dans le livre des juges. Il est dit dans Juges au chapitre 13, verset 1, que les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y a dans le livre des juges quelque chose qui est comme un disque rayé, une parole qui revient, et ils firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. On dirait que ce peuple, qui avait pourtant pris tant de victoires sous Josué, a oublié, négligé, abandonné tant et tant de choses, au point qu'aujourd'hui, ils ont des tendances qui sont devenues des ornières et qu'ils n'arrivent plus à s'échapper de ces ornières. Ils ont cette tendance de vouloir bien faire à un moment donné, de se ressaisir, mais ils retombent toujours dans les mêmes travers. Ils firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et la conséquence est toujours la même. Lorsque nous choisissons de faire ce que Dieu n'approuve pas, Lorsque nous faisons des choix conscients contre la volonté de Dieu, il y a toujours des conséquences. Il y a toujours des conséquences. Et c'est là, la conséquence, c'est que l'adversaire va commencer à régner sur eux. C'est lui qui va imposer ses normes, c'est lui qui va diriger, c'est lui qui va imposer ses lois et qui va obliger Israël à suivre les règles qu'ils n'ont jamais voulu suivre. Il y a comme une domination du péché de l'ennemi dans leur vie. Et pour la septième fois, dans le livre des Juges, nous lisons que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et cette fois, donc, les Philistins vont régner d'une manière incroyablement longue, 40 ans durant. Ça veut dire que toute une génération n'aura rien connu d'autre que l'oppression des Philistins. Ils sont juste, tout le monde est habitué à voir les Philistins à côté de chez eux tout le temps. L'oppression est longue, les temps sont mauvais. Israël est dans une dépression. Il est dit dans le livre des Juges, lorsque vous le lisez, que à chaque fois que les Philistins ont régné un certain temps sur eux, Israël a crié à l'Éternel. Et l'Éternel les a délivrés par un libérateur qui s'appelle un juge. Et vous en trouvez donc plusieurs, puisque Samson est le dernier des juges. Mais cette fois-ci, si vous regardez, ils ne crient plus à l'Éternel. Ce n'est pas marqué. Tandis que toutes les autres fois, c'est marqué. Ils ont crié à l'Éternel. Le libérateur est arrivé. Ici, personne ne crie parce qu'ils sont vraiment au bout du rouleau. Ils n'ont plus la force, ils n'ont plus la motivation. Ils sont tellement habitués à ce monde des Philistins, à leur code, à leur divinité, à leur oppression. Ils sont tellement habitués à leur défaite constante qu'ils ont finalement accepté la fatalité d'être sous la domination des Philistins. Leurs idoles, leurs dieux, ne les dérangent vraiment, plus vraiment. Au lieu d'être devant Dieu en disant « Seigneur, jusqu'à quand est-ce que ça va encore durer ?» Tout cela est parti, ils sont juste habitués au style, habitués à toutes ces normes mondaines, mauvaises, diaboliques qui viennent des Philistins, qu'ils ne sont plus dérangés, ils ne crient plus parce qu'ils croient que le ciel est fermé. Leur foi est arrivée au point zéro. Tellement Israël est bas tombé. Israël ne se repent plus. Il n'est plus touché, il ne réagit plus. Les mariages entre Philistins et Israéliens, Israélites sont acceptés. Ils ont abandonné leur alliance avec le Seigneur. Israël a urgemment besoin d'un réveil spirituel. Mes amis, c'est grave lorsque une église aujourd'hui vit ce genre de situation où on est habitué à accepter les normes du monde, que ça fait partie de notre vie. Lorsque nous sommes habitués à avoir peu de victoires, peu d'onction, peu de dons spirituels, cela ne nous touche plus, ça fait ni chaud ni froid. On ne sent même plus le besoin qu'il y ait un réveil, on est juste bon, c'est juste bon comme ça. La médiocrité est devenue de l'indifférence. L'indifférence est devenue de la défaite. La défaite est devenue un temps d'hiver spirituel. Il faut faire avec. Lorsque plus personne ne saisit la vraie vision qu'une église doit avoir et que les gens disent « c'est bon comme ça, il n'y a pas besoin de plus ». C'est grave, mes amis. L'église, à ce moment-là, a besoin d'un temps de réveil. Israël était tellement environné des Philistins qu'ils ne se rendaient plus compte après 40 ans combien leur situation était dramatique aux yeux de Dieu. Une situation de faiblesse. Et ce que j'aime dans ce texte, c'est que Dieu lui-même va mettre les choses en route. Quand il n'y a plus rien, plus personne, alors Dieu lui-même se lève. L'Écriture le dit dans les prophètes aussi. Dieu lui-même va se lever. Il va mettre son casque, il va mettre son manteau, il va se lever lui-même pour entreprendre lui-même tout seul quelque chose. Dieu lui-même prend l'initiative. Et ce qui est extraordinaire dans ce chapitre 13, c'est que Dieu va commencer avec un enfant. Dieu va commencer avec un enfant. Il va commencer même avant l'enfant avec un couple qui ne peut pas avoir d'enfant. Ça vous rappelle quelque chose? Où Dieu a commencé avec des couples qui n'avaient pas la possibilité d'avoir des enfants. Pensez aux parents de Jean-Baptiste. Pensez aux parents, la maman de Samuel. Pensez à Sarah et Abraham. Pensez aussi à Rachel et Isaac. pouvaient pas avoir d'enfants. Et il y a tant de situations où Dieu a suscité des hommes et des femmes particulièrement oints à partir d'une situation impossible. Dieu lui-même est venu dans la vie de ce couple dont il est question au chapitre 13 pour leur proposer quelque chose, pour leur dire quelque chose, pour faire irruption dans leur couple, pour dire « Je vous donnerai un enfant » et cela deviendra un libérateur qui commencera à sauver Israël. Verset 5 du chapitre 13. Lui va commencer à sauver. Ce n'est que le commencement du plan de Dieu. Il y aura d'autres choses après, si tout va bien. Et Dieu nous a placés pour commencer quelque part. Dieu lui-même a pris des initiatives. C'est lui qui est venu nous sauver. Ce n'est pas parce que tu es né dans une famille chrétienne que tu as la chance d'être chrétien et que Dieu est venu te chercher. Dieu lui-même est venu, a fait irruption dans ta vie. C'est lui qui fait grâce. Tout vient de lui. Toutes les grâces viennent de lui. Tout est grâce. Il y a ainsi cette grâce dans ce couple, les parents de Samson. Et le Seigneur va dire au travers de l'ange de l'Éternel que cet enfant sera naziréen, qui est un terme typiquement utilisé dans l'Ancien Testament pour dire « cet enfant sera mis à part, il sera sanctifié, il sera mis à part, il est choisi, il aura une onction particulière pour un projet particulier ». L'onction est donnée pour un appel et pour une tâche spécifique. Quelle que soit la tâche que tu dois faire pour Dieu, tu as besoin de l'onction de Dieu. Même si ça te semble une tâche tellement banale, tu as besoin pour bien faire la tâche et pour glorifier Dieu et pour porter du fruit, tu as besoin de l'onction de Dieu. Pas seulement un pasteur ou un chantre ou quelqu'un qui a un ministère spécial sur l'estrade. Chaque ministère a besoin, chaque appel a besoin de l'onction de Dieu pour porter les fruits qui honorent Dieu. As-tu demandé cette onction ? Ici, parce qu'Israël est tellement au point zéro, peut-être que personne n'a plus demandé, plus personne ne priait. Alors Dieu lui-même a fait ce qui s'imposait. Et ses parents vont prendre très au sérieux cet appel par des consignes précises. Extérieurement, il ne devra pas se couper les cheveux. Alors si nous sommes appelés par Dieu, ce n'est plus une loi qui s'applique aujourd'hui. Soyez rassurés. Ça n'a plus rien à voir. Ce qui compte, c'est la mise à part. C'est la mise à part intérieure qui compte. Mais qui doit avoir des répercussions vers l'extérieur. Vous ne pouvez pas seulement être mis à part, sanctifié à l'intérieur, et puis de l'extérieur, il ne se passe rien. Personne ne remarque rien. Samson avait un signe extérieur qui était ses cheveux longs, qu'il ne pouvait pas couper. Et tout le monde savait que c'était un homme mis à part. Pour quelque chose de particulier. Mais intérieurement, il devait aussi rester à part. Il devait soigner, il devait chérir cette onction du Saint-Esprit sur sa vie. Mon frère, ma sœur, la Bible dit que nous sommes des sanctifiés au travers de Jésus-Christ et de son salut. Tu es appelé à être saint, cela transparaît dans tout le Nouveau Testament. Que fais-tu de ta sainteté dans ta vie? Que fais-tu de la sanctification? Alors extérieurement, il n'y a pas besoin de prendre des postures particulières pour être saint. C'est intérieurement que je dois être séparé de quoi ? De l'esprit du monde, de l'esprit des Philistins, de la mentalité des Philistins. C'est ça qui fait de la force et qui permet à cette personne de rester dans l'onction pour vaincre les Philistins. Car définitivement, l'onction était destinée à cela. C'est obtenir des victoires. L'onction sur ta vie, la sanctification est destinée non seulement à plaire à Dieu, mais aussi pour obtenir des victoires et prendre des âmes dans le royaume des ténèbres pour les mettre dans le royaume de Dieu, pour aller faire incursion dans le royaume de l'adversaire et lui infliger des défaites pour ramener dans le royaume de Dieu et gagner des âmes. Ça sert à ça, l'onction. Frères et sœurs, réfléchissons à cela. Est-ce que notre vie mise à part par le Seigneur au travers du Saint-Esprit, est-ce que notre vie a cette fonction-là? Est-ce que nous sommes juste là pour attendre que le Seigneur revienne et tenir bon gré mal gré, tenir le coup jusqu'à son arrivée, tenir contre toutes les tentations, tenir contre toutes les attaques? Il y a bien plus que ça. L'onction est suffisante pour ça, mais pour bien plus. Alléluia. Le Seigneur, il a une onction pour ta vie, pour que tu gagnes sur l'ennemi. Et Samson avait reçu justement ce mandat. Dieu cherche aujourd'hui des hommes et des femmes qui vivent ce réveil intérieur. Alors dans Juges 14, 15, 16, nous voyons émerger ce héros à la force démesurée, un vrai Superman ou Batman ou Iron Man ou je ne sais pas quel man il faut encore ajouter. Et il y avait vraiment quelque chose qui faisait que cet homme dénotait manifestement par la force qu'il avait lorsque l'Esprit de Dieu le saisissait. Il était vraiment quelqu'un qui aurait bien peut-être coûté quelques bons millions aujourd'hui s'il avait été racheté par une société de protection de proximité ou un club quelconque de lutteurs, je ne sais pas. Et n'oubliez pas que les femmes se retournaient lorsqu'ils passaient dans la rue. Ah justement, Samson va avoir affaire avec pas mal de femmes. Ce n'était pas un péché en soi, mais lorsque nous verrons l'histoire, nous allons voir véritablement que cet homme, loin du Saint-Esprit, avait de grandes faiblesses. Cet homme avait reçu cette onction et la Bible dit que, jeune déjà, l'Esprit de Dieu commençait à le pousser. C'est marqué au chapitre 13 et au verset 24. Commençait à l'agiter. Il y avait comme un empressement en lui. Ah, je sens cette force de Dieu en moi. J'ai hâte d'en découdre avec ces Philistins. Lui vivait un réveil personnel. Il dit, mais c'est pas possible que ces gens, ils ont toujours le dessus sur nous, tout notre peuple. Il faut que quelque chose bouge. Et il sent cette force, il sent cet appel d'être un libérateur. Il sent tout cela en lui. Il a hâte, il est impatient, il est en train de piaffer comme un cheval dans son écurie pour être relâché et finalement prendre du terrain et intervenir, pressé par ce feu intérieur. Il est zélé et il est juste stupéfait de voir Israël dans la passivité la plus totale. Et il faut que quelque chose bouge. Et rapidement, il va se mettre en route. Et rapidement, nous allons voir que Samson va commettre de graves erreurs. Et ma prière, c'est que ces graves erreurs puissent nous servir de leçon, car toute écriture est inspirée pour servir, pour nous éduquer, pour nous corriger, pour nous enseigner, nous instruire, afin de nous rendre parfaits. Et alors dans son empressement, et je pense à des gens qui ont ce feu en eux, cet esprit qui est sur eux, et ils ressentent l'action de Dieu, et ils sont tellement pressés qu'ils ne regardent plus, qu'ils n'écoutent plus, qu'ils foncent. Et Samson était un peu comme cela. Et c'est étonnant de voir qu'au lieu de combattre les Philistins, il va aimer les Philistines. Regardez, je n'invente rien. Et il est dit au verset 1 du chapitre 14, « Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. » Nous voyons au chapitre 16, « Samson partit pour Gaza, il vit une femme prostituée et entra chez elle. » Verset 4 du chapitre 16, « Samson, après cela, aima une femme dans la vallée de Sorek, elle se nommait Dalila. » Samson, alors que son mandat, c'est de combattre les Philistins, il va arriver à faire alliance avec eux. Il aime leur culture. Le temps nous manque de lire les chapitres, mais lorsque vous voyez le chapitre 14, mais il aime les fêtes. Il aime les fêtes des Philistins. Il aime ces fêtes qui n'en finissent plus avec des énigmes, avec des jeux et tout cela. Il est littéralement embrigadé par l'esprit des Philistins. L'esprit des Philistins lui fait tourner la tête. On dit souvent que, c'est un dicton populaire, que l'homme c'est la tête et la femme c'est le cou qui fait tourner la tête. Et dans le cas de Samson, c'est un peu ça. Cette force démesurée est juste manipulable par quelqu'un qui lui fait tourner la tête. Et cet esprit des Philistins lui fait tourner la tête. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire clairement, alors nous rigolons un peu de cela, nous sourions, l'esprit du monde est bien plus fort que tu ne penses. L'esprit du monde est bien plus fort que tu ne penses. Ah oui, bien sûr, je sais que là, il y a un danger, là, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas regarder ça, oui. Mais l'esprit du monde, lorsque vous êtes dans le monde, l'esprit du monde et la pression morale, spirituelle et de tout genre, les pressions de tout genre sont sur nous. Et il nous faut beaucoup d'onction pour tenir, mes amis. Il nous faut beaucoup d'onction. Et il ne faut pas se permettre de nous éloigner et dire « Ah, mais je ne me fais pas avoir, moi. » Croyez pas que Samson ait dit la même chose. Avec la force que j'ai et les résultats que j'ai déjà obtenus, qu'est-ce que vous croyez? Je vais les battre, c'est évident. Surtout quand l'Esprit de Dieu est avec moi, alors là, je crains rien, j'ai peur de rien ni de personne et je vais les attraper tous. Il avait cette assurance personnelle en lui. Il avait cette propre assurance qui a été sa grande faiblesse. Beaucoup trop sûr de lui, beaucoup trop fier, beaucoup trop orgueilleux. Et nous allons voir encore une autre chose. Le caractère qui honore Dieu est plus important que le charisme donné par Dieu. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Le caractère, la façon de vivre et de se comporter de Samson a été sa perte, alors qu'il avait reçu un charisme particulièrement puissant pour être libérateur de tout un peuple. Tout gâché parce que son caractère n'a pas suivi. Regardez, la faiblesse numéro une. Il n'écoute rien ni personne. Vous connaissez des gens comme ça? Chez vous à la maison, vous en connaissez aussi? Des gens qui n'écoutent pas sont en grand danger. Les gens qui n'écoutent pas, répétez après moi, sont en grand danger. Samson savait, par sa mise à l'écart en tant que Naziréen, il connaissait les Écritures qui lui avaient été enseignées. Il savait qu'il ne devait pas se souiller, qu'il ne devait pas faire ceci, pas faire cela, et surtout pas contracter un mariage avec les Philistins. Il le savait par la parole de Dieu, mais il ne l'a pas fait. Puis il est dit, au verset 3 du chapitre 14, son père et sa mère lui dirent, « Mais n'y a-t-il pas de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, ces incirconcis ?» Samson dit à son père, « Prends-la pour moi, car c'est elle que je veux, celle que je veux, point. » Il est tellement entêté qu'il n'écoute ni ses parents, ni la parole de Dieu. Et puis, il est dit dans ce texte, il la veut pour lui. Et lorsque vous lisez tout le récit, chapitre 14, 15, surtout 14 et 15, il est tout le temps en train de se battre pour sa propre gloire. Il est en train de se battre pour lui-même. Il poursuit ses propres objectifs. Il poursuit pour lui quelque chose. Il est juste égoïste. Il a viré dans son appel, qui était un appel pour les autres, pour libérer son peuple. Il vire dans l'égoïsme. Tout est centré sur lui. Il veut tout pour lui. Au lieu de libérer Israël, la première chose qu'il fait, c'est un mauvais mariage. Il prend des décisions solo, selon ce qu'il voit. Au lieu de dire « Papa, maman, priez pour moi, est-ce que c'est la bonne décision? Qu'est-ce que vous en pensez si je me marie avec telle fille? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il a dit cela? Non. Prenez-la, c'est moi qui la veux, c'est tout. Si tu veux commencer à vaincre, ne fais pas un mariage comme ça. N'entrez pas dans un mariage à la Samson, s'il vous plaît. Il est égoïste. Il n'est pas enseignable. Connaissez des gens qui ne sont pas enseignables? Vous avez répété les choses avec douceur, avec fermeté, avec force, avec humour, mais ils ne sont pas enseignables. Ils ne se laissent rien dire. J'aimerais vous dire peut-être que, vous savez, ce qui se passe avec Samson, c'est que tout le monde voit son défaut, sauf lui-même. Je peux vous dire, je connais l'un ou l'autre pasteur, doué, rassemblant des foules, des gens, charismatiques, dans tous les sens du mot. Et tout le monde voit leurs faiblesses, sauf eux-mêmes. Ils sont aveugles sur eux-mêmes. Impossible de toucher ce point-là. Ce n'est pas possible. Ils se défendent, ils s'excusent, il y a toujours une explication. Et ils sont en danger. Et malheureusement, il y a des situations qui ont mal fini. Il faut le dire. Il faut le dire. La foi bien positionnée, veille sur l'appel reçu. Samson a reçu un appel de Dieu. mais il n'a pas veillé sur son appel. Car ton appel concerne ta vie, mais concerne aussi, écoutez-moi bien, la vie des autres. L'appel de Samson, c'était la réussite de sa propre destinée. Aujourd'hui, on prêche beaucoup là-dessus. Vis ton rêve, vis ta destinée, entre. Et on met l'homme au centre. Mes amis, l'appel, c'est pas l'homme au centre. D'abord, l'appel, c'est Dieu au centre. Et toi, tu disparais complètement pour qu'on voit le Seigneur. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ton appel existe pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Arrêtez de dire, je veux vivre mon rêve, je veux vivre ma vie, je veux briller, je veux... C'est un faux évangile. C'est un faux évangile. C'est un évangile humaniste et pas spirituel. C'est pas biblique, cela. Nous avons un appel pour honorer Dieu. Il faut que lui croisse et que moi je diminue. Cessons de vouloir briller de tous les côtés pour qu'on soit enfin aimé, reconnu. Soyez aimé par Dieu, ça a été dit ce matin. Et vous serez bien dans votre appel, dans votre peau, vous serez bien. Même si personne ne vous voit, personne ne vous applaudira jamais, personne ne vous dira merci, vous serez bien dans votre peau quand même. Mais ce matin, on veut vous encourager, on veut vous applaudir aussi. Alléluia. Notre appel sert au salut des autres. L'appel de Samson, c'était la délivrance de ce joug et de cette mainmise des Philistins. C'était ça son appel. La foi bien positionnée, c'est de veiller sur l'appel reçu. Mon ami, quand tu as reçu un appel, tu ne peux plus faire ce que tu veux. Je répète, quand tu as un appel sur ta vie, il y a des choses que Dieu ne te permet pas. À toi, l'Éternel ne le permet pas. Que les autres regardent n'importe quoi, ou vont n'importe où, ou racontent n'importe quoi, ou font des choses qui sont habituellement faites. Mais Dieu te dit, je t'ai appelé, je t'ai sanctifié, je t'ai mis à part, tu es un naziréen pour moi. À toi l'Éternel ne le permet pas, ne le permet pas. Tu ne peux plus faire ce que tu veux. Tu as des responsabilités et des devoirs. Et des hommes et des femmes qui ont cet appel sur leur vie et qui vivent ça, l'ennemi va les traquer, l'ennemi va les viser, les cibler. Il usera de toutes sortes de ruses pour les faire tomber. Et j'aimerais encore ajouter ceci. L'ennemi ne peut pas faire ce qu'il veut dans ta vie. L'ennemi ne peut pas faire. Il y a trop de gens qui disent, oui, mais l'ennemi est là et je suis manipulé la nuit dans mes rêves, je vois ceci, je vois cela. Il y a des malédictions, des générations. L'ennemi ne peut pas faire ce qu'il veut dans ta vie. Si tu fermes les portes, il ne pourra pas faire ce que tu veux. Même un inconverti qui ne connaît pas Jésus, s'il refuse d'entrer dans les péchés grossiers, ses portes restent fermées et l'ennemi ne peut pas faire ce qu'il veut non plus avec lui. L'ennemi a accès dans ta vie uniquement par les portes que tu lui ouvres. Les portes du péché, les portes du non-pardon, les portes des blessures, de l'amertume, de la haine, toutes ces choses sont des petites ou des grandes portes par lesquelles l'ennemi cherchera à s'infiltrer pour te lier. La foi positionnée, la foi solide dont il est question dans Hébreux 11, c'est une foi qui veille sur l'appel reçu. Deuxièmement, la foi bien positionnée, c'est une foi où l'on veille sur soi-même. Samson, nous l'avons dit, est dirigé par la chair et par les regards. Il va avoir d'abord ce mariage avec la fille des Philistins qui va mal finir. Vous lirez cela vous-même. Ensuite, il aura une aventure avec une prostituée, juge 16, verset 1. Et après ça viendra l'ultime épreuve. Parce qu'au lieu de comprendre la situation une première fois et puis une deuxième fois, il va encore de l'avant comme poussé par une main invisible. Dans sa solitude, son obstination de ne rien écouter ni personne, de confier uniquement tout dans sa force et sa propre personnalité, il va être entre les mains de Dalila. Dalila. Hein. Vous allez voir ce que ça va donner. Seul au milieu des Philistins, environné par toute cette meute des Philistins qui sont là en train de voir comment est-ce qu'on va le faire tomber, comment on va trouver, il faut qu'on trouve la solution pour briser sa force. Il faut qu'on trouve la solution pour voler la force secrète de son cœur. L'ennemi va chercher à te voler la force de ta vie, la vitalité, l'énergie de ta vie. Il va chercher à te rendre faible. Mais tu peux lui résister. Tu peux lui résister. Ne fais pas comme Samson, mon ami. Ne te précipite pas encore et encore comme une espèce de marche forcée vers une nouvelle aventure mauvaise. Car au lieu de s'affectionner aux choses de l'esprit, aux choses qui concernent son appel, il va être affectionné à sa chair. Romains 5, versets 5 et 8 nous le dit clairement. Mes amis, l'onction ne suffit pas. Il faut rester encore dans la dépendance et l'obéissance du Seigneur. Et Samson, il va aller tellement loin qu'il va en faire un jeu. Il est tellement sûr de lui qu'il va jouer avec l'adversaire. La dernière fois, je vous ai dit au sujet de David, lorsque vous êtes confronté à l'adversaire, il ne faut pas discuter. Il faut être clair et bref. Clair et bref. Tandis qu'ici, il va discuter, il va faire un jeu. Allez, faites-moi une devinette. D'où vient la force? Allez, je vais commencer à vous donner un petit indice. Et il en fait un jeu, vous verrez dans le chapitre 16, tout ce jeu dans lequel il est maintenant habitué. Chapitre 14 déjà, il était habitué à défier, à se mettre sur scène, à se mettre dans l'ambiance des fêtes des Philistins. Et là, il est avec cette femme qui lui fait tourner la tête complètement. Il est affaibli. Il est affaibli parce qu'il n'a pas veillé sur ses engagements. Nous lisons au chapitre 16, quelques versets, pour nous mettre un peu dans l'histoire quand même. Chapitre 16, verset 16. Donc il est avec Dalila, cette dernière femme. Comme elle était chaque jour à le tourmenter par ses paroles et à l'importuner, il en fut mortellement ennuyé. Je vous reviendrai sur cette traduction qui va nous apprendre quelque chose d'intéressant. L'autre dit, son âme était impatient, etc., à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a pas passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez! Car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Vous voyez le type de mariage que c'était. La manipulation. Elle l'endormit, soulignez ce mot, sur ses genoux. Ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commençait ainsi à le dompter. Il perdit sa force, notez ce deuxième mot. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Et il dit, et maintenant vient le verset important, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent, lui crevèrent les yeux et le firent descendre à Gaza. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait dans la meule dans la prison. Samson est affaibli par les fausses alliances. Il a abandonné sa consécration, il a perdu sa liberté. Il nous est dit que verset 16, il est dit que il fut mortellement ennuyé, il s'impatienta. Le mot veut dire son âme se rétrécit et se flétrit. Ça veut dire que sa vie intérieure a diminué au point qu'il n'en restait plus rien du tout. Il n'avait plus de force intérieure pour résister à cette tentation. Il est allé de pas en pas, de plus en plus loin. Il pouvait encore se dégager, mais là, il a été tourmenté par cette femme qui le cherchait jour après jour, sous les coups de l'ennemi, sous les coups répétitifs de cette attaque. Sa vie intérieure n'était plus approvisionnée, elle s'est flétrie, elle est descendue au niveau zéro. Il se meurt, sa vie ne lui parle plus. Mes amis, les dons, c'est une chose, mais votre vie, c'est ce qui compte. Les dons sont une chose, c'est votre caractère qui compte. C'est les fruits de l'esprit que vous portez qui comptent avant tout. Les dons sont extrêmement importants, mais ils doivent être combinés avec un caractère où une vie témoigne de votre force de vie. Elle va le culpabiliser, verset 15. Elle va le tourmenter, verset 16. Elle va l'endormir, verset 19. Et par l'usure et la fatigue, il va craquer. Je connais une personne dans le ministère qui est venue en pleurs dans mon bureau et qui m'a dit, dans un endroit isolé où elle était, cette personne, on m'a sollicité 100 fois. 100 fois. J'ai été sollicité pour me marier. J'étais ensuite sollicité pour coucher avec cette personne. 100 fois, elle m'a dit, la 101e fois, j'ai craqué. Samson, il a été eu à l'usure et à la fatigue, et à cause du fait qu'il était seul et que sa vie intérieure avec Dieu s'est flétrie. Il n'avait plus de ressources aucune. Et il a craqué au bout du compte. Il a abandonné sa consécration. Et lorsqu'on va lui couper, lorsqu'il va vendre son secret, le secret de sa force, cette sanctification, lorsqu'il va vendre, lorsqu'il va libérer ça à l'ennemi, eh bien, c'est le dernier vœu qu'il va ouvrir, parce qu'il a déjà rompu les autres vœux bien avant. Mes amis, les choses, les chutes du chrétien ne font pas juste comme ça. Vous ne tombez pas du 10e étage par terre. Vous tombez petit à petit. Vous lâchez une chose après l'autre. Vous abandonnez la vie de prière. Vous abandonnez l'église. Vous abandonnez la lecture de la Bible. Vous abandonnez la communion fraternelle. Vous abandonnez peu à peu les choses et la vie se flétrit, s'affaiblit. Et à un moment donné, l'ennemi vous attrape et vous êtes lié. Après, il faut prier pour s'en sortir. Il va perdre sa force. Je termine mon message gentiment. Parce que la note d'espérance est transmise dans ce texte et c'est ça que je veux vous laisser ce matin. Une foi bien positionnée peut avoir ses hauts et ses bas, mais la grâce de Dieu va rattraper Samson encore une fois. Alléluia. Regardez avec moi au verset 22. Cependant, depuis qu'il avait été rasé, ses cheveux commencèrent à pousser sur sa tête. Or, les ducs des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu. Pour se réjouir, il disait « Notre Dieu a livré Samson, notre ennemi, entre nos mains. » Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant « Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays, qui nous faisait tant de morts. » Dans la joie de leur cœur, ils dirent « Appelez Samson et qu'il nous divertisse. » Ils appelèrent Samson de la prison, il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main « Laisse-moi toucher les colonnes sur lesquelles repose l'édifice. » et m'appuyer contre elle. L'édifice était rempli d'hommes et de femmes. Tous les ducs des Philistins étaient là. Il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Imaginez la scène. Alors, verset 28. Samson invoqua l'Éternel. Mes amis, nous le voyons prier deux fois dans ce texte. Chapitre 13, 14, 15, 16. Les deux fois, c'est quand il est au bout du rouleau. Il va prier. Il ne priera pas entre deux. Mais il priera que quand il est au bord du précipice, quand il est au bout de lui-même. Mes amis, ne priez pas que quand vous êtes au bout du rouleau. Bien sûr, il faut le faire. Mais priez avant d'être au bout du rouleau. Priez sans cesse, afin que votre vie spirituelle ne se flétrisse pas comme une fleur qui se fane. Il va donc dire, « Éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force encore cette fois-ci. » J'aimerais que ce soit la prière de quelqu'un ce matin. Seigneur, souviens-toi de moi, de ma misère, de mes peu de victoires, de mes défaites et de mes mauvais choix. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Redonne-moi de la force. Redonne-moi de la force, Seigneur. Il reconnaît sa faiblesse, il se repent. Et que d'un seul coup, il va encore se venger. Bien sûr, il y a ce que je vois dans la grâce de Dieu, c'est que malgré tant et tant de bêtises de Samson, qui n'écoute rien, qui est égoïste, qui vit pour lui-même, etc., la grâce de Dieu, elle est toujours là, elle profite pour infliger des défaites aux Philistins. Elle profite parce qu'il a commencé à sauver Israël. Il a juste été le début, il a juste initié quelque chose. Il a quand même été juge pendant 20 ans, il nous a dit, ça a quand même été un homme de foi pendant quelques années quand même. Alors qu'il a tant raté, parce que l'Écriture marque sur tout ce qui ne marche pas dans sa vie. Alors que Hébreu parle de sa foi. Ici, tout l'enseignement, c'est sur les défauts et les erreurs à ne pas commettre, mes frères et sœurs. À ne pas commettre. Souviens-toi de moi, comme le brigand sur la croix a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Alléluia. Il va revenir à son appel, il va se ressaisir dans Dieu. Il va, toutes ces semences de foi au départ qui ont été oubliées reviennent à la surface. Comme ce grain qui a été oublié dans une grange quelque part, après des années, on va le mettre en terre, ça va repousser. Hein, comme certains qui ont trouvé le Seigneur après de nombreuses années, leur foi d'enfance est revenue à leur esprit. Samson va vaincre. Il va donc, comme vous le savez, il va donc écarter ces grandes colonnes. Toute la plateforme va s'effondrer. Il y aura 3000 morts et lui-même meurt avec. Ça, c'est le drame de Samson. Mes frères, mes sœurs, ce matin, Avons-nous compris le message de ce matin? Avons-nous compris ce que Dieu voulait nous dire? C'est important et ces mises en garde sont là en plein été pour que vous puissiez faire bon usage de cette parole d'exhortation pour chacun. Au nom de Jésus, soyez bénis. Que l'onction reste sur vous, que la grâce reste sur vous, que votre vie intérieure ne se flétrisse jamais. Soyez capables d'écouter vos parents, d'écouter les frères. Soyez de ceux qui ne vivent pas pour eux-mêmes, mais qui vivent pour le Seigneur et pour leur mission. Préservez jalousement la sanctification et cette mise à part que Dieu vous a donnée en Jésus-Christ. C'est ça le résumé de mon message ce matin. Hallelujah.